Vous êtes sur RTL. 22h, minuit 30.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Saïda.
Oui, bonsoir Caroline.
Bonsoir, bienvenue.
Merci, très contente de vous avoir. Je vous suivais beaucoup sur, sur Europe 1.
Oui, et ben, vous m'avez maintenant, maintenant
et
vous m'écoutez
maintenant,
sur RTL.
Maintenant, j'ai dit absolument que je bifurque sur RTL.
Ah, ben vous avez bien fait, Saïda.
C'était la libre antenne, je ne sais plus. Hein,
oui, ben maintenant.
Pendant des années.
Voilà, maintenant c'est Parlons-nous sur RTL.
Donc,
vous m'avez retrouvé quand?
Eh bien, aujourd'hui, j'ai
non,
commencé.
C'est pas vrai.
Si.
Bah, ça fait, c'est la quatrième saison de Parlons-nous sur RTL.
Oui, je sais, mais comme j'étais il y a des fois, je me couchais plus tôt et tout. Il m'arrivait de temps en temps d'écouter sur Europe 1. Et du coup, j'ai dit non, il faut que je retrouve.
Ah ben non, moi, j'y suis plus. Je suis sur RTL maintenant. Et j'y suis bien.
Il faut absolument que ce petit problème qui me chiffonne.
Eh ben voilà.
Il faut absolument que j'appelle Caroline.
Eh ben vous avez bien
fait.
Elle
va peut-être me guider.
Je l'espère, Saïda.
Voilà. Ben mon petit souci, comme je disais. Moi, ça fait 4 ans et demi que j'ai perdu ma maman.
Oui.
Bon, ben comme on dit, il y a le déni, je l'ai accepté. Il y a la colère, elle est passée. Et l'acceptation, ben, j'ai du mal. J'ai beaucoup, beaucoup de mal parce que ma mère est une personne qui avait beaucoup souffert. Elle me manque parce que je l'appelais 3 fois par jour. Elle me manque parce que je la vois régulièrement le week-end. Elle me manque parce que j'ai besoin de parler.
D'accord.
Et elle me manque parce que je pense que j'ai pas... C'était une femme qui parlait pas beaucoup, ma mère.
D'accord.
Et à partir du moment où elle s'est séparée de mon père, au bout de 53 ans, elle s'est délivrée un peu.
Vous vous êtes rapprochée à ce moment-là?
Oui, parce qu'elle parlait beaucoup. Elle était plus à notre écoute parce qu'on est 9 enfants.
Oui.
Et mon souci aussi, c'est comme moi, je suis tombée malade à 14 ans.
Ah
j'ai
bon
eu la myopathie.
Wow.
Donc à 17 ans, j'ai quitté ma famille.
Pour aller où? Dans un centre?
Parce que j'étais un peu la seconde maman. J'ai beaucoup, beaucoup aidé ma maman.
Mais vous êtes allée dans un centre?
Oui, pendant 2 ans à Fontainebleau.
Ah, d'accord.
Après, j'ai fait 1 an à l'hôpital.
Oui.
Et je suis repartie 1 an et demi dans Lot-et-Garonne.
D'accord.
Donc, il y a eu beaucoup d'absence.
Oui, beaucoup de séparation.
Voilà, et petite...
Et la maladie, l'annonce de la maladie alors que vous étiez adolescente.
Oui, à 14 ans, c'est le ciel qui vous tombe dans la tête.
Et vous avez quel âge aujourd'hui, Saïda?
J'avais 14 ans, j'ai 65 ans.
D'accord. Donc aujourd'hui, la maladie, elle est là, mais elle fait partie de votre quotidien?
Oui, mais je l'accepte, la maladie, il n'y a pas de souci, on est neuf. Souvent, on me dit... c'est tombé sur toi. Je dis oui, mais je l'accepte. Hein. J'ai aucun souci avec mon handicap. Parce que ma force, elle est dans ma tête.
Oui, certainement.
Elle est ni dans mes bras, ni dans mes jambes. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. On peut être en bonne santé et être mal dans sa peau.
C'est vrai.
Et avoir un handicap et foncer comme une malade.
Vous êtes en fauteuil, donc?
Je suis en fauteuil électrique.
Oui. D'accord.
Mais je ne l'ai pas toujours été. Hein.
Oui.
Parce que j'ai travaillé quand même 18 ans.
Oui.
J'ai quand même marché, je prenais le métro, il n'y avait pas de souci. Avec des difficultés, mais j'ai marché. Et je suis fière de moi parce que j'ai surtout travaillé.
Mais vous pouvez, oui.
J'ai travaillé 18 ans, 9 ans dans une association.
Qu'est-ce que vous faisiez?
Eh bien, mon rêve était d'être infirmière.
Ah oui.
Et quand je l'ai annoncé en troisième, on m'a dit c'est impossible, vous êtes handicapée. On aurait pu me mettre en secrétariat médical. Mais ça s'est pas fait à l'époque, c'était les années 70.
Oui, oui.
Donc on m'a mis en compta. Et en compta, je détestais, mais j'étais bonne élève.
Oui, malgré tout, vous êtes accrochée.
Pas,
oui,
voilà.
Alors que c'était très éloigné du
j'étais
domaine
très
du
bonne
soin.
Élève. J'étais dans les deuxièmes en compta.
Ah oui.
Je travaillais très bien en compta.
Oui.
J'avais des 17 de moyenne, ça posait aucun problème. Mais comme mon rêve était d'être infirmière, donc j'ai bossé 9 ans dans une association de voyage et 9 ans dans le médical.
D'accord, d'accord.
Mais tout ça par hasard.
Oui, oui.
Mais je dis aux gens qui me cherchent, quand ils cherchent du travail, je dis moi, je suis l'exemple type que, surtout à Paris, celui qui ne trouve pas de travail, c'est qu'il ne veut vraiment pas. Parce que moi, j'avais mon handicap.
C'est pas si simple. Hein.
J'étais nationalité algérienne à l'époque. Oui. Entre-temps, j'ai fait ma nationalité française. Parce que moi, je suis née en Algérie.
Oui.
Et j'étais débutante.
Oui, vous cumuliez les obstacles.
J'avais
oui.
trois handicaps.
L'époque n'était pas tout à fait la même non plus, voilà, Saïda. Hein, aussi. Hein.
Oui. Et en 78, quand j'ai eu ce poste, j'avais le choix de deux postes. C'est pour vous dire qu'à l'époque, il y avait du boulot.
Et voilà. Et oui, il y en a moins voilà. Hein, aujourd'hui.
Enfin, voilà.
Oui.
Donc j'avais
plus
le choix
compliqué.
Entre un poste, pareil dans le médical et en comptabilité, par contre, pour 6 mois, pour un congé maternité, et le poste qui était à 1h30 de transport, mais dans ce cas-là, c'était définitif et mieux payé. Et c'était les voyages. Et comme moi, j'ai toujours rêvé de voyager, ben, j'ai pris le second poste. Même si j'avais 1h30 de transport, c'est pas grave. En réalité,
vous êtes
il y avait
battante.
1 heure de transport, mais comme il y avait mon handicap, marchant doucement, plus tous les escaliers, vous savez, dans les métros, c'est,
ah oui, c'est pas
une
du
catastrophe.
Tout. Oui, oui.
Donc, je mettais 1h30 au lieu 1 heure.
Oui, quelle volonté.
Ouais. Et puis, j'étais à l'accueil.
Ah oui.
Donc, j'étais à l'accueil, je répondais au téléphone et je travaillais en plus aussi avec la comptable. Donc, la comptabilité m'a toujours suivie.
Ben oui, décidément. Bon, ça sert hein, dans la vie de savoir compter. Hein.
Ah oui, c'est important.
Moi,
enfin,
voilà.
Enfin, je vous dis... J'aimais pas, parce que mon rêve était d'être infirmière.
Eh oui. Ben oui, parce que vous avez côtoyé beaucoup l'univers médical quand
vous
annoncez.
Oui, je suis pas la seule malade en plus dans la famille. Donc,
d'accord.
L'univers médical et l'univers psychiatrique, on est champions, moi et ma sœur. Parce que j'ai des frères qui sont des grands dépressifs.
Ah bon?
Donc les blouses blanches, on connaît. Oui, sur 9 enfants, on a tous été dépressifs à un degré différent. Moi, ma dépression elle s'est déclenchée à l'âge de 17 ans. Et puis, mes frères, ben, j'ai un frère qui est en hôpital psychiatrique. C'est une maison de retraite, si vous voulez, puisqu'il a plus de 60 ans en Belgique.
Oui.
Et il y en a un autre qui est en banlieue parisienne.
D'accord. Et vous êtes en lien avec certaines de vos sœurs, là, vous
ah,
me parliez
oui, on se voit, oui. Oui, il y en a un, il y a mon frère de... qui est en Belgique, on le voit tous les 3 mois et on s'appelle tous les lundis. Mmh. Et celui qui est en banlieue parisienne, on le voit à peu près tous les 15 jours.
Oui. On parlait à l'instant de résilience avec le témoignage d'Arthur. Vous aussi, finalement, c'est une thématique ce soir parce qu'il vous en a fallu de la force pour surmonter comme ça. Il a fallu batailler. Vous nous dites finalement que vous avez un mental, vous avez
fort.
Oui. Et donc, vous avez, malgré cela, vous êtes inséré dans le monde du travail. Sur le plan personnel, est-ce que vous avez pu construire quelque chose,
en
couple?
Oui, je suis mariée, j'ai un enfant.
Oh, c'est formidable.
Je pensais jamais me marier, je pensais jamais avoir un enfant.
D'accord. Qui a quel âge maintenant?
33 ans.
C'est un garçon.
Une quarantaine d'années de vie commune.
Comment ça? Avec
ça
votre mari?
Ça fait 40 ans qu'on est ensemble avec mon mari.
C'est bien.
Voilà.
Enfin, c'est bien. C'est rare aujourd'hui.
Mais
et vous vous entendez bien.
Oui. Au début, c'était très dur parce que je ne concevais pas un enfant. Je ne concevais pas qu'un enfant puisse vivre avec une maman handicapée. Mon mari, c'était différent parce que quand il m'a connue, je marchais. Pour lui, je n'étais pas handicapée. Je faisais le ménage, je cuisinais. Bref, j'étais...
Oui.
Pratiquement comme tout le monde. Mais dans ma tête, me dire qu'il allait falloir avoir un enfant avec une maman handicapée, ça fait que j'ai beaucoup souffert parce que jusqu'à maintenant, je culpabilise hein, parce qu'il fallait lui trouver quelqu'un pour aller à l'école, quelqu'un pour faire son judo, quelqu'un pour aller voir les musées. Enfin, il y avait tout le temps des recherches pour qu'il soit, pour que je puisse l'élever du mieux que je peux.
Et comment finalement, mais les enfants ont des capacités d'adaptation extraordinaires.
Ah oui,
et même d'ailleurs chez les enfants qui n'ont pas encore l'âge de la parole, souvent certains perçoivent le handicap chez le parent.
Parents qui sont
non-voyants ou
oui.
L'enfant le perçoit
et
très tôt.
Mon avantage, c'était que mon mari était en bonne santé par rapport à moi.
Oui.
Donc de ce côté-là, ça a beaucoup aidé aussi.
Et Et alors, vous me dites que vous avez que votre mère vous manque, notamment parce que vous avez besoin de parler.
Ah ouais,
ça veut dire que vous ne pouvez pas parler assez avec votre mari. Vous trouvez pas?
Si, mais c'est pas pareil.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil. Même ma sœur, ma petite sœur, qui était très fusionnelle avec ma mère, on n'en parle jamais.
Moi, pourquoi vous n'en parlez pas avec votre sœur?
Moi, c'est souvent moi qui lui dis « Maman me manque ». Elle me le dit jamais. Et pourtant, elle était très fusionnelle parce qu'on est trois filles. Les garçons, c'est différent. Ma mère leur parlait, mais c'était différent. Mais ma petite sœur, elle était collée à ma mère comme... c'était une fusion incroyable.
Mais et quand vous lui dites qu'elle vous manque, oui, côté. C'est qu'elle ne peut pas. Elle a peur de quoi? De pleurer, de s'effondrer?
Non, c'est quelqu'un qui retient ses larmes.
Oui, c'est ça. Alors, elle a peur de craquer.
Oui, je pense, c'est possible. Que moi, si j'ai envie de pleurer, je pleure. Moi, il m'arrive certains soirs, mais je m'étouffe tellement je pleure.
Mais qu'est-ce qui vous met dans cet état-là?
Parce que je me dis... j'ai pas assez profité d'elle. J'ai pas assez parlé avec elle.
Oui, c'est un manque, en fait.
C'est un manque.
Mais un manque qui remonte à plus loin.
Voilà. Il y a quelque chose qui s'est pas perdu.
Oui, mais votre maman, déjà 9 enfants.
Oui.
Enfin, elle devait...
Plus une fausse couche. Deux
elle devait pas avoir tellement...
Et un enfant qui est mort, la mort subite.
Bon, donc vous rendez compte, vous rendez compte, enfin, ça ne lui laissait pas le temps de...
Elle n'a
pas
eu le temps.
Bah non.
C'est pour ça que je l'ai beaucoup secondée.
Oui,
parce que moi, je venais d'Algérie, j'avais 2 ans et demi, et ma mère ne parlait ni français, ni n'écrivait le français. Donc moi, dès que j'ai su écrire, c'était moi qui faisais le courrier de toute la famille.
Mais c'est pour ça qu'elle vous a tant manqué à vous.
Oui.
Parce que finalement, très vite, vous l'avez secondée, et vous
et
avez joué un rôle maternel.
Tout à fait. Parce que quand il y avait un petit souci avec mes frères, ma mère leur disait « Appelez Saïda, moi je peux rien pour vous, je suis fatiguée. »
Ben voilà.
Donc,
c'est la maman de votre enfance qui vous manque, finalement.
Oui, des petites. Hein. Moi, à partir de 8-9 ans, il fallait emmener les enfants à l'école. À l'époque, on n'allait pas en bus, on marchait un quart d'heure, 20 minutes. C'est moi qui récupérais mes petits frères à la maternelle. C'est moi qui les accompagnais.
Oui, c'est ça. Et vous
Et je pense que le fait, en plus, d'être partie à 17 ans...
Oui, ça, c'est dur. D'être coupée de votre milieu familial, c'est difficile. Et en plus, avec des soins, avec la maladie, dans un environnement, enfin...
Tout à fait.
Dur. Et d'ailleurs, vous vouliez devenir infirmière, enfin...
Voilà.
C'est une façon de réparer.
J'ai toujours voulu être un infirmière, parce que j'adore les gens. Et puis, j'adore prendre j'adore prendre soin des gens. Je suis très protectrice et très à l'écoute des gens. Je traverserai des montagnes pour les autres.
Et vous prenez soin de vous?
Eh bien, je commence seulement maintenant.
Ah, ben c'est bien. C'est bien. Il n'y a pas d'âge pour cela?
Non, je commence tout juste à prendre soin de moi.
Oui, de quelle façon alors?
Eh bien, j'ai quelqu'un qui me fait mes ongles une fois par mois. J'ai ma petite femme de ménage qui me fait mes brochines toutes les semaines. Je sors beaucoup.
Vous êtes coquette, vous prenez, oui.
J'ai quelques copines. Quand les beaux jours sont là, on va au restaurant, on va boire un pot. Il m'arrive, pendant un moment, je sortais beaucoup avec une association qui s'appelle PAM et qui permet de faire des sorties, des concerts et tout.
Vous êtes très
active.
Et
je suis très sociable aussi.
Oui. C'est bien, ça s'entend. On sent que vous aimez.
Je supporte pas la solitude.
Oui.
J'en arrive à parler toute seule quand il m'arrive d'être toute seule.
Oui.
Parce que mon mari, souvent, quand il rentre, il me dit « Tu parlais à qui ?» Ben, je dis « Je parlais à moi-même. »
Et pourquoi alors vous n'envisagez pas peut-être un peu d'avoir des entretiens avec un professionnel pour finalement parler un peu de vous, avoir un endroit où vous pouvez parler, justement, vous ne parlerez pas seule.
Oui. Faudrait que je fasse ça.
Ben oui.
Parce que j'ai vu pas mal de psychologues. Et il n'y a pas longtemps, là, il y a un an, j'ai fait de la sophrologie.
D'accord.
Et ça m'a beaucoup réussi.
Ça vous a fait du bien.
Je vais reprendre des séances, oui. Des séances au mois de janvier, parce que le Covid, il a un peu chamboulé tout le monde.
Oui. Ben oui, c'est une autre manière de prendre soin de vous aussi.
Oui. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'elle se déplace à domicile.
Ah ben oui. Donc c'est bien.
C'est idéal.
Oui. Oui.
Je l'ai eu par l'intermédiaire d'une de mes infirmières.
Puis vous savez qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de, même de psy, du coup, c'était adapté, comme à un moment, on pouvait plus se déplacer, ou il faisait des consultations par téléphone.
Oui,
aussi.
Tout à fait, non, il n'y a pas de souci.
Ce qui peut vous permettre, vous, d'avoir un sas où vous
On m'a
pouvez...
même conseillé de faire de l'hypnose.
Oui, enfin, vous n'allez pas non plus vous mettre à faire 10 000 thérapies.
Non, mais la sophrologie...
Non, mais parce que ça me fait rire. En ce moment, j'entends ça, on essaie tout. Bon, pourquoi pas, hein. Mais tout dépend quelle est votre demande, quoi.
Je pense que je vais refaire de la sophrologie au mois de...
Si ça vous avait fait du bien.
Au mois de janvier.
Oui.
Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est normal qu'au bout de 4 ans et demi, il y a encore ce...
Mais il y a un manque.
J'arrive pas à cette acceptation. Normalement,
non, mais attendez, ça, là, vous me parlez des phases que l'on décrit communément dans le deuil. Vous savez, c'est bien d'expliquer un peu le. C'est une bonne chose d'essayer d'apprivoiser un peu notre psychisme et notre inconscient. Mais vous savez, on tente de l'apprivoiser, mais alors à travers des formules comme faire son deuil.
Voilà. Et
en fait, j'entends des personnes parfois.
Moi, j'aime pas trop ce mot, mais bon.
Mais oui, mais j'entends des personnes autour de moi me dire, elles sont endeuillées, elles viennent de perdre un proche. Ça fait quelques semaines parfois, pour d'autres quelques mois, et elles me disent, j'arrive toujours pas à faire mon deuil, et elles s'en veulent. Mais en fait, c'est des grandes formules comme ça qui sont passées dans le grand public, c'est bien, mais qui sont mal comprises. Faire le deuil, c'est pas, ça se fait bien malgré nous. C'est-à-dire, on reprend ce que disait Freud du deuil pour dire que c'est un travail psychique. Vous voyez, il n'y a pas. Mais la personne, on ne se dit pas, tiens, ben, je vais commencer mon travail de deuil. Alors, certains ont décrit les différentes étapes dont vous parlez, le déni, la colère. Bon. Mais après. C'est des grandes lignes générales, mais vous savez, dans le deuil, si vous voulez, ça nous ramène parfois d'autres choses mal vécues. L'inconscient, si vous voulez, une séparation et la mort, lui, fait pas la différence. Donc finalement, vous me parlez du deuil de votre maman, et vous me parlez aussi de cette séparation à l'âge de 17 ans,
oui,
vous avez dû être en univers hospitalier. Donc,
je suis partie trop tôt.
Ça réveille beaucoup de choses. Donc il y a plein de choses qui viennent se mêler comme ça, et c'est pour dire qu'à un moment, quand on est plongé dans le deuil, toute l'énergie... En fait, c'est pour ça qu'on se sent, et je trouve que vous en avez dans votre voix, et au vu de ce que vous comptez mettre en œuvre, enfin, il y a déjà quelque chose quand même qui est en bonne voie. Parce que quand on est en plein deuil, qu'on vient de perdre un être cher, on a le courage de rien. Enfin, on se force.
Le sommeil, surtout.
Ben voilà, et toute l'énergie, elle est auprès de l'être aimé disparu. Et le risque, c'est que parfois, on n'arrive plus à être du côté des vivants. C'est-à-dire que toute notre énergie, elle est auprès de cette personne. C'est compliqué de réintégrer le monde des vivants, de retrouver de l'énergie pour soi-même. À vous entendre, Saïda, je trouve que quand même, il y a quelque chose dans vos projets, dans vos désirs, les sorties que vous faites, votre capacité à vous lier.
Bon. Je suis très sociable, j'adore les gens.
Bon.
Moi, vous savez que j'en suis arrivée à un moment... je crois il y a un an, j'ai commencé à délirer en me disant j'ai peur de ne plus voir son visage. C'est grave de penser comme ça.
Oui, non, c'est pas grave.
De l'oublier
mais
complètement.
Mais non.
Fait que quand je pense à elle, parce que moi je lui parle. Moi, tous les matins quand je me lève, je dis bonjour maman, comment vas-tu? C'est marrant, mais c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Je lui parle comme si qu'elle était en face de moi. Et je me dis, pour ne pas... Et le soir, je pense à tous les bons moments qu'on a.
Donc c'est bien. Déjà, vous repensez des bons moments.
Oui, je garde que les bons moments.
D'accord.
Je ne garde que les bons moments.
Donc déjà, c'est une bonne chose.
Oui, oui.
Vous n'êtes pas... Ça ne vous plonge pas dans une mélancolie.
Ah non. Je garde que les bons moments. que les belles.
Vous savez, je reçois un message d'une auditrice prénommée Frésia qui dit, elle dit, vous savez, on continue à vivre, mais le manque, lui, reste toujours présent. Des années après, j'y pense encore, même si je suis plus apaisée. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le manque qui est vertigineux et qui nous aspire et qui fait qu'on a du mal à on fonctionne. Pendant un temps, on fonctionne et les routines du quotidien aident. Il y a des gens qui ne peuvent plus, qui effectivement vont se réfugier dans le sommeil. Il y a des gens qui ont besoin de maintenir une routine parce que sinon elle s'effondrerait. Mais si vous voulez, il n'y a plus cette capacité au départ à ressentir, où on ne s'autorise plus à ressentir un petit moment de joie ou de plaisir, comme si c'était faire offense à la personne qui n'est plus là, ou qui ne peut plus vivre ça. Ce que j'entends pas chez vous. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui... Ça ne vous empêche pas de vivre, oui.
C'est quand même positif. Oui. Vous savez que pendant un moment, avant qu'elle nous quitte, parce qu'elle commençait à faire l'Alzheimer, j'avais demandé à ma voisine, que je connais très très bien, que je côtoie régulièrement, je lui avais demandé, mais toi, comment as-tu fait pour faire le deuil de ta maman? Elle m'a dit, ça fait 10 ans, j'y pense énormément, mais elle m'a dit ce que tu pourrais faire éventuellement, mettre une photo d'elle sur ta table de nuit. Bon, moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise autre chose, parce qu'une photo, oui, elle est dans ma tête, j'ai pas besoin de photo. Mais j'aurais voulu qu'elle me raconte plus. Elle m'a dit, moi, ça fait 10 ans et c'est encore douloureux,
Saïda, vous savez, chacun, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de mode d'emploi. Et c'est là où il y a une confusion. Cette expression, elle est pas bien en fait. Faire le deuil, comme on fait le job, on fait, ça va pas le verbe faire, parce que c'est quelque chose qui se passe psychiquement. Et puis ce qui marche pour un ne marche pas pour l'autre.
Voilà,
moi, quand je vous écoute, bon, il y a votre besoin de parler. Peut-être que vous pourriez reprendre un peu de sophrologie pour si ça vous fait du bien. Et puis peut-être parler un peu de votre maman à un thérapeute, avoir quelques séances pour parler.
Sûr.
Voilà. Mais franchement, quand je vous écoute, je trouve que vous allez plutôt bien.
Oui. Moi, c'est juste le soir.
Oui.
La journée, je vous dis, je lui parle. Oui. Je suis en conversation, on va dire.
Oui, mais...
Je lui demande des conseils.
Bon, mais alors c'est ça, c'est-à-dire que vous le vivez comme une présence finalement qui peut vous guider, quoi, comme un guide, voilà. Bon, mais beaucoup de personnes ressentent cela, se sentent protégées parfois par les êtres aimés disparus, comme s'ils veillaient sur eux. Bon.
Oui, je lui parle comme si qu'elle était présente.
C'est ça. Bon, si ça vous fait du bien, pourquoi pas.
Et je me dis qu'est-ce que en disant je lui demande des conseils dans ma tête, je dis. Qu'est-ce qu'aurait fait ma mère à ma place?
Voilà. Bon, bah écoutez, si ça vous fait du bien, pourquoi pas?
J'essaie de me dire qu'est-ce qu'elle, elle aurait fait à ma place.
Oui. Bon, bah écoutez, c'est bien, vous avez trouvé votre façon à vous de vous apaiser, Saïda.
Voilà, j'ai dit, il faut quand même que j'en parle à l'antenne pour me rassurer un peu.
Oui, bah
je vais rassurer
mais...
comme ça.
Bah oui. Bah
je vais dormir
vraiment.
Un peu plus tranquille.
Bah, j'espère que vous allez passer une nuit plus paisible.
Apaisée. Ça va m'apaiser. Cette conversation m'aura apaisée.
Eh bien, écoutez, tant mieux, Saïda.
Bah, je vous remercie.
Je vous embrasse et merci beaucoup de votre fidélité.
Merci. Et puis, vous savez que le fait de vous écouter, vous nous apportez beaucoup parce que ça relativise tous nos petits bobos, des fois. Parce que des fois, on a des petits bobos. Et des fois, on écoute des histoires, on se dit à côté, moi, j'ai rien du tout. Donc, il faut se lever et avancer dans la vie.
Oui.
Je trouve que vous apportez énormément.
C'est vous aussi.
Moi,
vous nous apportez
de
à travers
vous. Dans la vie.
Écoutez, ça me touche beaucoup. Mais
quand vous allez chez le psychologue, des fois, quand on vous écoute, tous les auditeurs qui passent à votre antenne.
L'expérience des personnes qui témoignent, leur courage, leur capacité à surmonter les épreuves, comme vous avez pu le faire d'ailleurs, Saïda. C'est aussi.
Je me dis d'abord, je ne suis pas seule, ce qui est déjà très bien. Et en plus, je me dis. Tu t'en sors pas mal, non, arrête
oui,
de te plaindre.
Je trouve. C'est vrai que vous avez le droit de vous plaindre à certains moments, mais c'est vrai qu'au vu de votre parcours, vous vous en sortez plutôt très bien.
Voilà.
Je vous embrasse, Saïda.
Aussi,
belle nuit alors.
Merci à vous et puis bonne soirée.
Bonne soirée. Au revoir.
Merci, au revoir.